Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous rejoignons tout de suite François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Une émission spéciale aujourd'hui, pas d'information locale donc. Une émission spéciale qui nous est proposée par le SNRL, le Syndicat National des Radios Libres. Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias dans l'École qui s'est déroulée fin mars, le SNRL et le SPS, le Syndicat de la Presse Sociale, ont décidé de promouvoir un nouveau concept, le cross-média, un média radio plus la presse écrite pour intervenir dans des écoles. Les élèves de la Fondation Hélène Poidatz ont reçu au micro de la radio associative Andy FM, puis en classe, Michel Ched, journaliste de la revue Vie Nouvelle du syndicat de la presse sociale, et Éric Lucas de la radio Fréquence Sillée, et délégué national à l'éducation du syndicat national des radios libres. Dans un premier temps, les élèves ont voulu mieux connaître la radio, et particulièrement les radios associatives, et le métier de journaliste. Puis le thème de l'électronisme a été abordé. Par rapport au thème général de la semaine de la presse dans l'école, l'information sans frontières, l'électronisme matérialise une frontière dans l'accès à l'information, selon que l'on maîtrise ou pas les outils numériques. Signalons que dans la même semaine, d'autres élèves ont reçu Séverine Bounol de la revue Valeurs Mutualistes. En remerciant de cette initiative le SNRL que préside Emmanuel Bouterin, par ailleurs président de Fréquence Mistral, pour cette collaboration, écoutons cette émission spéciale que vous pourrez retrouver sur notre site fréquencemistral.com.
Sur Andy FM, dans le cadre de la semaine de la presse du 18 au 23 mars, les élèves du CRFIEM de la Fondation Poidatz à Saint-Fargeau-Pontchéry ont décidé d'aborder le thème « L'information sans frontières » proposé cette année par le CLEMI, Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. À cette occasion, trois élèves, Marine, Carly et Océane, vont interviewer M. Éric Lucas, représentant du SNRL, Syndicat National des Radios Libres, et M. Michel Ched, journaliste de la revue Vie Nouvelle. Cette interview se déroulera en deux parties, à la fois sur l'histoire de la radio et la problématique de l'électronisme. Pour commencer, nous allons accueillir les journalistes Marine, Carly et Océane. Bonjour.
Bonjour.
Et nous allons accueillir vos invités, Monsieur Éric Lucas. Monsieur Éric Lucas, bonjour. Bonjour. Et nous allons accueillir Monsieur Michel Ched. Monsieur Michel Ched, bonjour.
Bonjour.
On va commencer l'interview avec le métier des intervenants. Et pour la première question, nous allons écouter Marine.
Où travaillez-vous et quelles sont vos missions?
Alors pour moi, je suis l'un des responsables de Fréquence Sillée, qui est une radio locale rurale, en milieu scolaire dans la Sarthe. Et je suis également l'un des responsables du Syndicat National des Radios Libres, qui a son siège à Paris et qui regroupe les radios associatives françaises.
Et vous, Monsieur Ched?
Alors, je suis journaliste dans la presse écrite, un magazine de retraités qui s'appelle Vie Nouvelle, qui a 65 000 abonnés et qui a la particularité d'être un magazine d'obédience syndicale de la presse sociale, de 64 pages avec une partie économie, sociale, syndicale, et puis bien sûr toute une partie magazine, culture, cuisine, mots croisés. Notre lectorat est pour 99,99% des retraités.
C'est bien que nous soyons ici pour en parler aujourd'hui, puisque nous sommes jeunes.
Alors c'est une occasion d'échanger de manière intergénérationnelle, et c'est absolument passionnant.
Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce travail?
Pour être journaliste, faut être curieux, faut être critique, faut si possible avoir une culture générale qui permet justement de pouvoir être critique par rapport à l'information qui se présente. Faut s'intéresser aux gens, quels qu'ils soient, depuis les gens les plus simples jusque à ceux qui se croient les plus importants, et leur donner la même importance.
Oui, Eric a raison. Il faut, lorsqu'il dit, il faut s'intéresser aux gens. Je reprends cette anecdote. J'ai eu par le passé une rédactrice en chef qui me disait, tu sais, quand on est journaliste, on l'est 24 heures sur 24. Alors, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est vrai. Il faut être à l'écoute, curieux, et en effet, curieux, oui, le terme est tout à fait juste. Et puis être engagé, mais engagé vis-à-vis des autres, engagé pour les autres d'une manière générale, et puis bien sûr beaucoup d'humilité pour rendre compte de la manière la plus objective qu'il soit, des faits avec sans doute un peu d'analyse, mais peut-être que ça fera l'objet d'une autre question.
Alors on continue l'interview avec l'histoire de la radio et cette fois-ci c'est Carly qui va poser la première question.
Pouvez-vous nous dire quel est le terme de radio libre ?
Alors les radios libres sont des radios qui sont nées au début des années 80. 1980, c'est au moment de l'élection de François Mitterrand que parmi les volontés politiques, il y avait celle d'ouvrir la parole à travers les radios libres. Il faut savoir que précédemment, il y avait un contrôle, un monopole, ce qu'on appelle un monopole d'État sur la radio, et que les seules radios qui émettaient en fait étaient à l'époque appelées périphérique, puisqu'elle s'était installée sur des territoires en Sarre, Andorre, Monte-Carlo, ou Allemagne même pour Europe 1, parce qu'elle n'avait pas le droit de s'installer en France. Donc il y avait un monopole, il n'y avait pas le droit pour quiconque de pouvoir réaliser un programme et de l'émettre depuis le territoire français. C'est pour ça que le terme radio libre s'est imposé, puisqu'il a permis d'un seul coup à plusieurs dizaines de milliers de personnes de pouvoir accéder au micro, en répondant aussi à un combat qui avait été mené avant par d'autres radios militantes. On peut citer Radio Verte Fessenheim qui était sur le terrain de l'écologie avec Brice Lalonde. On peut citer Lorraine Cœur d'Acier qui était la voix des sidérurgistes. On peut citer Radio Fil Bleu aussi à Montpellier qui était une autre radio militante. Donc il y a eu des radios militantes qui se faisaient courser régulièrement évidemment par les CRS qui ne cherchaient qu'une chose, c'est leur piquer l'émetteur. Jusqu'en 82, là où finalement les choses basculent et la plupart des radios libres sont apparues en gros à partir de 1983.
Pouvez-vous nous expliquer la différence entre une radio associative et une radio commerciale ?
Alors la différence, elle est assez simple. Elles sont issues de ce même mouvement du début des années 80. Et à un moment, il y a eu des radios qui ont choisi de rentrer dans ce qu'on appelle, nous, la communication sociale de proximité, c'est-à-dire de servir sur le territoire pour l'expression de ceux qu'on appelle aussi les sans-voix, comme on peut le dire ici, hein, les jeunes, les femmes, les ouvriers, par exemple, n'avaient pas accès à l'antenne. Et cette notion de sans-voix a encore beaucoup plus de sens si on parle de l'Afrique ou si on parle, par exemple, de l'Amérique latine ou de l'Asie. Donc on s'est défini comme des radios qui voulaient donner la parole à tous ceux qui étaient présents sur le territoire et qui, a priori, n'avaient pas accès à la parole. En opposition, des radios ont choisi le côté commercial, c'est-à-dire un financement par la publicité et un ciblage de public très précis lié justement au contrat publicitaire qu'ils pouvaient lier. Par exemple, quand Energy s'est développée, ils ciblaient des ressources publicitaires qui étaient évidemment différentes de celles que Radio Nostalgie, qui ciblait un public plus âgé, pouvait évidemment récupérer. La différence est simple, il y en a une, la radio associative, elle est là pour être un service public, quasiment un service public. Les autres sont là pour divertir et puis gagner de l'argent.
Nous allons continuer en musique. Le sujet de la première partie de l'émission, l'histoire de la radio avec Eric Lucas, représentant le SNRL, et Michel Shed, journaliste de la revue Vie Nouvelle.
For fun, lucky, lucky, lucky.
Sur Andy FM, le sujet de l'émission, l'histoire de la radio et la problématique de l'électronisme, avec Éric Lucas, représentant le SNRL, Syndicat National des Radios Libres, et Michel Ched, journaliste de la revue Vie Nouvelle.
Pouvez-vous chiffrer le nombre de radios libres en France ?
Alors, pour ce qui est des... Moi, je vais parler des radios associatives. Il y a 680 radios associatives en France et qui sont présentes de façon importante aussi bien en métropole que sur le territoire ultramarin, en Outre-mer. Elles sont partout, y compris dans des villages les plus éloignés, dans les vallées les plus isolées de montagne, où elles jouent justement le rôle de lien pour l'ensemble des populations de ces secteurs. Également dans les quartiers où elles donnent la parole, par exemple, à des communautés qui n'ont pas accès à la parole, voilà, autrement. Donc, 680 radios et elles couvrent l'ensemble du territoire. Elles représentent, pour être clair, plus de 2000 salariés aujourd'hui, plus de 20 000 bénévoles et Médiamétrie les crédite de 2 millions d'auditeurs globalement sur l'ensemble du territoire français, ce qui finalement a quelque chose d'important, d'autant que qualitativement, on sait que les auditeurs des radios associatives sont plutôt des gens actifs sur les territoires, des responsables associatifs, des gens qui s'intéressent à la réalité de la vie de tous les jours. Donc on a aussi une vision qualitative des auditeurs et pas uniquement quantitative, même si sur beaucoup de territoires, principalement les territoires ruraux, les radios sont particulièrement bien implantées et reconnues.
Comment sont financées ces radios ?
Elles sont financées... Je vais juste vous comparer deux situations. En Afrique, vous avez des radios qui peuvent prétendre à avoir des fréquences, mais on leur fait payer une licence qu'en général, elles ne payent pas parce qu'elle est trop chère. Et au moment où on veut leur demander d'arrêter d'émettre, on leur dit « Vous n'avez pas payé votre licence, donc vous allez arrêter d'émettre. » Donc vous voyez un peu, pays pauvre, on demande aux radios de payer. La France, par contre, a prévu un des systèmes les meilleurs en termes de soutien des radios associatives, puisque nous sommes financés par la force, par la puissance publique, par le législateur. Il y a un fonds de soutien à l'expression radiophonique qui a été créé, qui donne une base, donc avec ces fonds d'État qui donnent une base aux radios associatives pour pouvoir travailler, pouvoir commencer à salarier. Mais en dehors de ça, il faut développer énormément de projets dans beaucoup de domaines. Ça peut être sur la réponse à des projets européens, à des projets territoriaux, l'intervention de fonds leaders sur des fonds européens. Ça peut être des financements de collectivités locales, régions, départements, voilà. Donc, en gros, il faudrait autour de 150 000 euros pour faire tourner à peu près correctement une radio. On est loin aujourd'hui de la situation où les radios atteignent ces chiffres. Aujourd'hui, pour être clair, en moyenne, une radio tourne un petit peu avec un peu moins de 100 000 euros. C'est pas beaucoup quand on compare avec les budgets des radios publiques ou commerciales qui pratiquement, là, ils ont le budget de quelques jours. Non, j'exagère.
Comment obtiennent-elles ces radios le droit de diffuser sur les bandes FM, les radios associatives ?
Que ce soit radio associative ou radio d'État ou radio commerciale, la procédure est la même. Il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est ce qu'on appelle un organisme de régulation, prévoit un plan de fréquence qui dit à tel endroit, il y a telle fréquence, telle fréquence, telle fréquence. Qui en veut ? Voilà, il lance l'appel. À ce moment-là, on constitue les dossiers et le CSA choisit les dossiers les plus crédibles et les plus pertinents sur les territoires, à savoir que la loi a prévu que 25% en gros des fréquences, ça dépend s'il y a des candidats ou pas, mais que 25% des fréquences devaient être réservées à la communication sociale de proximité, donc aux radios associatives.
On continue les questions avec le rôle de la radio dans la diffusion de l'information. Océane, on t'écoute.
Comment l'information radiophonique permet-elle d'atteindre le plus grand nombre d'auditeurs ?
Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que, indépendamment des réseaux sociaux aujourd'hui, hein, qui posent d'autres questions, le média le plus rapide, c'est la radio. C'est-à-dire que pour diffuser une information, il suffit de l'avoir, de la vérifier, un coup de fil de ci, de là, et tout de suite on sait si cette information, qu'elle soit locale ou nationale ou internationale, hein, est juste, et on peut l'envoyer. Parce que la presse écrite doit attendre effectivement que l'article soit écrit, que le journal soit publié le lendemain. Si c'est la presse quotidienne, ça n'apparaît que le lendemain, alors que nous, dans la minute qui suit, on peut effectivement diffuser cette information. Ça implique de la part des journalistes radio énormément de prudence, par rapport à l'information qu'ils utilisent, bien vérifier les sources selon que ces sources viennent des agences de presse, d'internet, du coup de fil d'un ami, voilà, ou d'un ennemi, voilà, de façon à pouvoir diffuser une information. En tout cas, il y a un point commun entre les journalistes de radio et tous les journalistes des autres médias, c'est systématiquement qu'on se donne l'obligation de contrôler l'information qu'on diffuse, et c'est en cela, je ne sais pas s'il y en sera question, qu'on est complètement différent des réseaux sociaux, qui ne sont pas des médias, on va le dire clairement.
Peut-être pour compléter ce que vient de dire Eric, d'une manière fondamentale, notre métier, c'est la vérification des sources, et on l'observe aujourd'hui, compte tenu de l'urgence et de la vitesse où va l'information. La plupart des journalistes, notamment de radio, mais aussi de presse écrite, ne prennent plus le temps de vérifier les sources. Et lorsqu'une source vient d'une dépêche AFP ou n'importe quelle autre, observez vous-même, prenez les titres d'un journal télévisé sur plusieurs chaînes, prenez les titres d'une radio sur plusieurs chaînes de radio, vous allez avoir à coup sûr le même standard d'information. Alors c'est pas sans poser problème, parce que d'abord c'est le pluralisme de l'information qui est en cause, et puis parfois on entend des confrères qui viennent à l'antenne ou qui écrivent. Alors quand je dis l'antenne radio ou télé et qui disent c'était pas tout à fait exact, voilà, on rectifie l'information sur tel événement, il s'est passé en réalité telle chose, tout simplement parce que la source n'avait pas été vérifiée. Pour terminer, un des problèmes de l'information aujourd'hui, mais là peut-être que je déborde votre question, c'est qu'on assiste à une course effrénée entre ce qu'Eric évoquait, les réseaux sociaux d'une part, les chaînes d'information continue d'autre part, les médias traditionnels, radio, hein, chaîne grande avec les guillemets qui convient sur le terme grande chaîne de radio, mais les chaînes de radio, chacun essayant de rattraper le retard qu'il a pris sur l'autre, et ça donne les réseaux sociaux où personne ne contrôle l'information, ça donne des informations fausses, des fausses nouvelles qui sont reprises comme étant la vérité par BFM, par LCI ou d'autres médias. Et puis les médias, le journal quotidien a beaucoup de mal à venir jouer son véritable rôle, tenir sa véritable mission, celle d'une information objective et vérifiée.
L'histoire de la radio, le sujet de l'émission sur Andy FM, une courte pause musicale et on revient juste après. My breath will find a Avant la pause musicale, nous parlions du métier de journaliste et le sujet de l'émission, l'histoire de la radio, avec Éric Lucas, représentant le SNRL, Syndicat National des Radios Libres, et Michel Shed, journaliste de la revue Vie Nouvelle. Marine, on t'écoute pour la question suivante qui concerne toujours le métier de journaliste.
Est-ce que vous pensez qu'il y a deux types de journalistes ou de journalisme ? Puisque vous parliez tous les deux de la course effrénée à l'information. Et est-ce que vous croyez que le journalisme d'aujourd'hui est mort ? Je prends un fait d'actualité, le mouvement MeToo aux États-Unis ou le Balance son port en France. C'était quelque chose qui est né sur les réseaux sociaux. Donc c'était important puisque ça parlait, rapide rappel des faits, du viol. En tout cas des agressions sexuelles. Donc là, il y a eu la parole de la femme qui sont libérées. Et donc un bon nombre de journalistes s'informer sur Twitter.
Alors, il faut pas confondre ce qu'on pourra appeler les lanceurs d'alerte et puis les journalistes. D'accord. C'est-à-dire que d'une part, il y a des gens qui vont soulever à un moment un problème. Et ce qui se passait dans un temps éloigné, c'est que finalement, personne ne reprenait ces infos. On mettait un peu la poussière sous le tapis. Alors qu'aujourd'hui, avec les moyens dont dispose quiconque veut diffuser une information vraie ou fausse, et fausse malheureusement, il y a moyen de lancer l'information. Et c'est là que le journaliste intervient, et c'est là que le journaliste, il est là pour vérifier toute l'information, s'adresser à la personne qui a lancé cette information, lui demander les éléments qui prouvent effectivement ce qu'il avance, et puis après traiter l'information. Le journaliste fait de l'investigation. Le journaliste ne répète pas ce qui est dit. Il va creuser pour essayer de trouver où est la vérité, où est-ce qu'il y a un problème, où est-ce qu'il y a peut-être une tentative de manipulation, parce ouais. qu'il y a des manipulateurs tellement adroits qu'ils sont capables, par un empilement d'explications de différentes données qu'ils donnent, qu'ils vont fournir, de faire croire que l'information est réelle parce qu'elle se suit pas, alors qu'en fait, tout est faux. Alors après, donc le journaliste, son travail, c'est non seulement de montrer sur quelle réalité s'appuie l'information qui a été donnée par quelqu'un d'autre, mais vraiment de donner à l'auditeur, au lecteur, quelque chose le plus fiable possible. La vérité, elle est toujours difficile à atteindre. C'est la fameuse question de l'objectivité. Elle n'existe pas en tant que telle, mais on vise à s'en approcher au maximum. Le journaliste est responsable. Il est responsable de l'information qu'il donne. Les gens qui lancent des choses sur Internet sont bien souvent irresponsables. Et pire, quand on voit qu'aujourd'hui, on s'inquiète de la question l'anonymat sur Internet, moi je dis, quand est-ce qu'on va enlever l'anonymat sur Internet pour que les gens qui s'expriment sachent au moins que s'ils disent quelque chose, on saura qui ils sont et non pas un simple pseudo.
Un mot peut-être sur ce qu'évoque Eric sur le rôle des médias et la responsabilité des journalistes. Je crois que votre question pose aussi la question de la définition des médias. Qu'est-ce qu'un média aujourd'hui ? Le média aujourd'hui, c'est pour ça que je partage assez l'idée de la responsabilité du journaliste. On est entre le média, quand je dis le média, alors quelle que soit sa forme, télévisé, radio ou presse écrite, peu importe. Nous sommes, nous, journalistes, entre un fait, un événement, une situation, un propos, un événement, et ceux qui nous lisent, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. C'est une responsabilité très importante qu'aucun journaliste normalement constitué ne devrait jamais oublier. On ne peut pas raconter n'importe quoi aux gens. Notre rôle, c'est de vérifier, de mettre en forme, selon la nature du média, et de rendre compréhensible, y compris en donnant des éléments de compréhension, pas une prise de position, pas un parti pris, rendre simplement compréhensible cette information. Après, le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, il se fait son opinion. Nous lui donnons les éléments. C'est lui, après, qui va trancher et qui va réagir par rapport à une situation ou un événement, MeToo D'accord. ou d'autres. Voilà. C'est vraiment important, cette notion de responsabilité. Aujourd'hui, pour terminer le propos là-dessus, on assiste. Il suffit de se mettre devant un poste de télé, une radio ou autre. On assiste à des dérives du point de vue de l'objectivité de l'information.
C'est pour ça que je parlais du journalisme mort, en tout cas, d'un certain côté. Puisque moi, c'était plutôt ma question par rapport à l'immédiateté de l'information. Puisque c'est ce que vous dites, un journaliste digne de ce nom, en tout cas, qui fait correctement son travail, vérifie les sources, c'est-à-dire qu'il y a un long travail d'enquête. Il y a une lenteur de réflexion, une démarche, c'est par rapport à la déontologie même du journaliste. C'est
pour ça. Alors, en l'occurrence, la lenteur n'est pas une mauvaise chose.
Non,
il faut mieux sortir une information plus tard, juste, que tout de suite fausse, voire dangereuse.
Bien sûr, mais c'est pour ça. Bien sûr, non, mais c'est absolument pas une critique. Non, j'ai posé juste comment se fait-il qu'il y ait ce décalage entre le travail d'investigation déontologique du journaliste et la société qui veut toujours aller plus vite dans un souci de progrès.
J'en ai d'accord. Le travail du journaliste aujourd'hui, c'est de résister justement à ce mouvement. C'est de faire que la vitesse ne l'emporte pas sur la recherche de la vérité. Ce que vous dites, ce serait un petit peu comme si on disait aujourd'hui, bon, on a vu quelqu'un qui a commis un acte délictueux, bon, condamnons-le tout de suite, ne menons pas d'enquête, voilà, envoyons-le directement au tribunal et jugeons-le, voilà, c'est réglé. Alors que le rôle de la justice, c'est d'abord d'investiguer, de vérifier si tout est juste ou pas. Et puis on va peut-être s'apercevoir au bout du compte que quelqu'un, on l'a vu aux États-Unis, le cas de gens qui ont été condamnés à mort, et on s'est aperçu quelques années plus tard que ce n'était pas du tout justifié, qu'il n'était pas coupable. Attention à aller trop vite. Là, je vais au maximum, c'est-à-dire sur la mort. Mais imaginez une fausse information en radio locale, balancer une information fausse sur un accident grave qui s'est produit pas très loin de chez vous. Vous allez déclencher un vent de panique chez l'ensemble des auditeurs. On dit, est-ce que mon fils, ma fille, mon père se trouvent concernés, etc. Hein, imaginez par exemple quand il s'est passé l'attentat à Trèbes, une radio locale qui lance l'information, le vent de panique qu'elle peut créer. Donc on a intérêt à faire attention à ce qu'on dit, et on a toujours à penser à la personne la plus importante dans les médias, qui est pas forcément celle à laquelle on pense. Le plus important, c'est le lecteur ou l'auditeur. Donc on faut se mettre à un moment dans la peau de l'auditeur pour lui amener l'information dont il a besoin, avec les explications dont il a besoin, et il faut être, je reprends le mot, responsable. Aller trop vite, c'est irresponsable. C'est un peu comme sur la route.
Un autre paramètre dans ce qui vient d'être dit et dans la question que vous posez, elle est passionnante, votre question, parce que voilà, ça permet d'élargir le propos. Mais aujourd'hui, rappelons-nous, Eric évoquait le budget des radios locales, enfin d'un certain nombre de radios libres aujourd'hui. Il en va de même pour la presse écrite. Les budgets aujourd'hui contraignent de plus en plus les rédactions à réduire les moyens de leur travail. Je connais, et ça m'est arrivé aussi, des situations où il faut aller à Bordeaux vérifier je ne sais pas quoi, une situation quelconque. Eh bien, faute de moyens, on se contente du téléphone, et quand on n'a pas le bon interlocuteur, on essaie avec un autre, etc. Et au final, on réduit peut-être, probablement, notre champ d'investigation. Les questions budgétaires pèsent aussi sur ces situations. C'est un secret pour personne, mais aujourd'hui, l'audiovisuel public est sous le coup de réductions drastiques de budget. Eh bien, les journalistes de télévision se déplacent de moins en moins. Je regardais le listing des effectifs sur Radio France. Il y a de moins en moins de qualifications de grands reporters. Et les choses se passent par rapport à une dépêche qui tombe, un coup de fil au mieux, quand c'est bien, un contact qu'on peut avoir ici ou là, et puis on y va. C'est exactement ce que vous pointez du doigt le défaut. Il faut réagir parfois vite, parfois trop vite. Eh bien, on balance un truc qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément à la réalité.
Le sujet de l'émission sur Andy FM, l'histoire de la radio et la problématique de l'électronisme. On poursuit en musique. We had such a hell of a time. The banks of the river drinking too much wine. Sat by the water smoking cigarettes. Told me those words that I can't forget. When we were together, those were the days. It couldn't get much better. I feel the same, you feel the same. I told you, so meet me by the river.
eyes to the deepest green. I don't know my mind, but I know what I see.
La deuxième partie de l'émission sur Andy FM, sur l'information numérique. Je rappelle les invités, monsieur Eric Lucas, représentant le SNRL, le Syndicat National des Radios Libres, et Michel Shed, journaliste de la revue Vie Nouvelle. L'électronisme et ses conséquences sur les sociétés. Marine, on t'écoute pour la question.
Donc, qu'est-ce que l'électronisme et d'où vient ce terme ?
Alors c'est un terme qui est arrivé sur le dans notre langage commun il y a relativement peu de temps. C'est un peu la même question que celle de l'illettrisme. Mais c'est donc l'illettrisme, si je puis m'exprimer ainsi, de tout ce qui est le numérique. Hein. Voilà. En France aujourd'hui, pour des raisons dont on reparlera sans doute dans un instant, on compte à peu près 3 millions de personnes qui sont en situation d'illettrisme. Ces 3 millions de personnes, pour l'essentiel, sont aussi en situation de handicap par rapport aux technologies du numérique.
Combien de personnes sont touchées par l'électronisme ?
Alors, on estime en gros que 13 millions de personnes sont à des degrés différents frappées par ce problème d'électronisme. Ce sont des personnes qui ne disposent pas d'ordinateur à la maison. Ce sont les personnes qui disposent d'ordinateur mais qui n'ont pas les connexions liées aux zones blanches, par exemple, dans certaines zones rurales. Ce sont les personnes qui ne savent pas utiliser l'ordinateur en dehors des fonctions basiques. Et ce sont les personnes qui sont en situation de reculer face à l'utilisation d'éléments de numérisation dans le cadre des procédures. Vous savez, aujourd'hui, on demande de plus en plus, l'administration demande de plus en plus à ce qu'on saisisse tout par Internet, et on s'aperçoit à un moment que même les gens qui sont habitués ont du mal à décoder la façon dont ça fonctionne. Et on a 19% parmi les gens qui ont été sondés par le syndicat de la presse sociale et l'Institut CSA. Il y a 19% de personnes qu'on appelle des abandonnistes, c'est-à-dire des gens qui ont abandonné en cours de procédure, en cours de consultation, parce qu'ils savaient pas comment aller jusqu'au bout. Et en fait, parmi ces 13 millions de personnes, c'est quand même énorme par rapport à l'ensemble de la population française, on a deux catégories qui sont assez particulières et opposées. On a évidemment les personnes les plus âgées, les personnes de plus de 70 ans principalement, parce que ça ne fait pas partie de leur culture, ils n'ont pas été formés là-dessus, ou ils n'ont pas pris le rebond de la révolution numérique, ils n'en sont pas coupables, c'est l'évolution du temps qui va comme ça. Et puis il y a aussi des jeunes de moins de 35 ans, et qui ont, sur lesquels on a relevé deux formes d'électronisme, soit qu'ils ne savent pas utiliser, tout simplement, c'est un savoir-faire qu'ils n'ont pas, ou alors ils sont submergés, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses qui viennent par Internet, et ils ont l'impression qu'ils maîtrisent tout ça, en fait ils ne maîtrisent pas. Et ça c'est le pire des électronismes, et je le relis à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le journalisme, c'est-à-dire que quand on a une information, il faut savoir la décoder, et c'est une forme d'électronisme, il faut le dire, je vais peut-être vous choquer, mais c'est une forme d'électronisme que de consulter n'importe comment tout ce qu'il y a sur sur Internet. Donc, des populations très diverses. On constate par exemple aussi statistiquement que sur la région parisienne, on a beaucoup moins de personnes qui sont dans cette situation d'électronisme que dans les zones rurales. Et la région dans laquelle il y a le plus d'électronisme, les deux régions, c'est l'ouest de la France, zone où la ruralité est importante, et le nord de la France, où on le sait, suite à des contextes sociaux complexes, il y a des populations qui sont un peu frappées de paupérisation et qui n'ont pas forcément accès à l'Internet. Voilà en gros le schéma que l'on peut donner de ce qu'est l'électronisme aujourd'hui, et il y a effectivement un lien énorme avec l'accès à l'information, hein, bien sûr.
Alors on va continuer avec les moyens mis en œuvre pour lutter contre l'électronisme.
Quels sont les outils mis en place par les pouvoirs publics justement pour réduire le nombre d'escus numériques que vous citiez?
Alors, peut-être qu'il y a un intermédiaire entre la première question et la vôtre sur les moyens à mettre, enfin qui sont mis en œuvre aujourd'hui, mais peut-être qu'on y reviendra juste après. Ce qu'Éric évoque à l'instant a pour conséquence directe une accentuation des inégalités entre les citoyens, entre les territoires, selon l'endroit où on habite. À un moment où nous sommes dans une société où tout est numérisé de plus en plus. Ça va poser un certain nombre de problèmes sérieux, de rupture sociale, de rupture territoriale, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Alors sur les moyens, moi je sais pas ce qu'en pense Éric ou ce que vous avez observé vous-même dans le cadre de votre travail. J'allais dire, sans vouloir être réducteur, hein, à part les annonces gouvernementales d'arriver à 2022, je crois, 22, hein, je vais vérifier si c'est 21 ou 22, où le pays, l'ensemble du territoire sera couvert, il n'y aura plus de zones blanches, aujourd'hui, il reste que nous n'avons pas grand-chose comme moyen mis en œuvre. Au mieux, ici ou là, on crée des maisons de... ou les mairies. Alors selon les municipalités ou les territoires, peu importe, mais il y a des endroits, des lieux d'accueil public qui existent pour permettre aux gens de venir faire ici leur déclaration d'impôt, là leur commande de leur commande, là encore un certain nombre de démarches. Mais vraiment, il y a cette situation, et c'est pas rien les chiffres qu'Éric vient de donner là, c'est considérable si on rapporte ça à nos 65 millions de concitoyens.
Ouais, je voudrais compléter parce que j'ai suivi un certain nombre, sinon animé un certain nombre de grands débats là dans la période qui vient de s'écouler. Et parmi les choses qui sont le plus souvent dites par des personnes dans les zones rurales, c'est que on leur demande d'utiliser de plus en plus les outils numériques, et en même temps on leur enlève les services de proximité qui permettraient d'avoir un accompagnement, par exemple quand on enlève une permanence de la CAF et qu'il y a des documents à remplir via la CAF, quand il y avait quelqu'un qui venait au moins une fois par semaine, on pouvait toujours compter dessus. On enlève maintenant tout ça, donc de fait qu'on veut de plus en plus numériser parce qu'on se dit, l'État se dit on va faire des économies, mais en même temps on dégrade le service public. On isole de plus en plus des gens, voire des fois on les rend responsables. Il y a des gens par exemple qui à la fin du mois de décembre ont reçu une espèce d'amende de l'État de 15 euros parce qu'ils avaient payé je sais plus trop quel impôt par chèque au lieu de le payer par voie numérique, alors que ça s'était écrit tout petit comme ça sur un document. Le ministre a finalement dit ok, c'était en pleine période des gilets jaunes, donc il a dit non, on va annuler tout ça, les 15 euros personne devra... Mais on est exactement dans ce côté illogique, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'État qui dit, oui, c'est une évidence. Évidemment, les gens qui bossent tous les jours dans les ministères sur l'informatique, ils ont l'impression que c'est naturel. Mais non, c'est pas naturel. Il faut maintenir du service de proximité. Il faut maintenir de l'humain. La génération qui a aujourd'hui autour de 70 ans ou plus a besoin de cet accompagnement humain. C'est franchement inacceptable de la part de gouvernants de décider de marginaliser définitivement ces populations, en plus en les culpabilisant.
L'électronisme et ses conséquences sur les sociétés, le sujet de l'émission sur Andy FM. Dernière pause musicale de l'émission avant la toute dernière partie.
Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla. Que sales después de las 12, tus viejos amigos ya ni te conocen. Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé. Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí. Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata más, me persigue. Dejo que el karma me castigue. Tengo frío y no hay quien me abrigue. Después que te perdí. Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata más, me persigue. Dejo que el karma me castigue. Tengo frío y no hay quien me abrigue.
Sigo pensando en ti, en todas esas veces que te prometí y nunca cumplí. En todas las veces que te ponía bonita para mí. En esos momentos cuando llegaba la hora de dormir y tu alma siempre sobre mí. Y no se me pasa, no te supero. Solo en mi casa siento que muero. Tengo la plata y tengo el dinero, pero no el corazón de acero. Por favor vuelve más, yo te espero. Lo que sea te espero. Tú eres mía desde tercero, desde que me prestaste el lapicero. Yo que pensaba que podía vivir sin tenerte en mi vida. Ahora me encuentro sufriendo, no puedo con esta agonía. Pensándote todos los días, la calma sin pena castiga. Me paso llamando a tu amiga, a ver si te hostiga y te obliga. Después que te perdí, ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata mal, me persigue. Dejo que la calma castigue. Tengo frío, no hay quien me abrigue.
Todo fue mi culpa, yo te hice mal. Fue mi culpa, yo te hice cambiar. Yo no sé si algún día tú me quieras perdonar. Pero aunque tú lo hagas, yo nunca te voy a olvidar. Sé que sufriste, yo también lloré. Te convertiste en otra mujer. Ya tú no eres la misma, eres fría al parecer. Que los sentimientos a tu corazón no van a volver.
Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla. Que sales después de las 12, tus viejos amigos ya ni te conocen. Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé. Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí. Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, te mentí, te sufrí, tu recuerdo me sigue. Me maltrata mal, me persigue. Dejo que la calma castigue. Tengo frío, no hay quien me abrigue.
Después que te perdí, ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata más, me persigue. Dejo que el calma me castigue. Tengo frío y no hay quien me abrigue. Después que te perdí.
Loco humilde y real.
Loco humilde y real.
Ya, Enrique Iglesias.
Enrique Iglesias.
Joseph Field.
Dernière partie de l'émission sur Andy FM, on continue de parler de l'électronisme et l'usage du numérique par les jeunes. Je rappelle nos invités, Éric Lucas, représentant le SNRL, Syndicat National des Radios Libres, et Michel Shed, journaliste de la revue Vie Nouvelle. On poursuit avec les questions et on t'écoute Marine.
Comment analysez-vous l'usage numérique par les jeunes ?
Déjà, quelques éléments ont été donnés. Alors, nous ne rentrons pas, Eric ou moi, dans la catégorie que vous évoquez, encore qu'on est jeune. Enfin, il y a, j'allais dire comme ça, brutalement, mais le pire est le meilleur. Le pire est le meilleur. Vous êtes mieux placé que moi ou que nous pour voir un peu les dérives que l'on observe sur les réseaux sociaux, etc. Mais par ailleurs, aujourd'hui, Internet, dans son concept générique, c'est une fabuleuse invention quand même. C'est une fabuleuse invention pour nous, nos générations, mais pour les vôtres aussi. Vous avez dû probablement être amené à faire des recherches sur Internet pour tel ou tel cours de géo, de SVT, que sais-je encore. Et vous avez probablement trouvé ce que vous attendiez, ce dont vous aviez besoin, à condition, là encore, d'aller un peu plus loin que la page Wikipédia pour être sûr qu'on est bien dans ce qu'on recherche, mais c'est une fabuleuse invention. Donc, oui, l'usage, dans sa globalité, l'usage, à mon avis en tout cas, que fait la jeunesse d'Internet, et pour reprendre une expression, est globalement positif, mais alerte, attention à toutes les dérives que l'on peut observer, qui vont des réseaux sociaux au temps passé. C'est le temps que vous passez sur Internet et du temps peut-être utile, mais souvent, parfois, du temps qui pourrait être utilisé pour autre chose.
Oui, je voudrais juste ajouter une question. Et évidemment qu'Internet, c'est important, c'est une révolution capitale. Le numérique, c'est aussi important que la révolution industrielle. Et par contre, la différence, c'est que elle s'effectue en quelques années, de mois en mois, les choses évoluent. Par contre, la question que les jeunes, comme tous les citoyens sur Terre, doivent se poser, c'est qui est derrière ? C'est-à-dire, qui contrôle ? Et quand on parle des GAFA, aujourd'hui, et la puissance économique qu'ils représentent, il faut aussi peser le poids d'influence qu'ils ont. Donc, il faut savoir que les gens qui produisent de l'information aujourd'hui et qui utilisent Internet restent dépendants des opérateurs. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez BFM TV, par exemple, ce matin, ils ont régulièrement un petit panneau qui s'affiche pour dire du fait de la rupture des négociations avec Free, nous ne serons plus diffusés sur les Freebox. Ça veut donc dire que ces gens qui tiennent les tuyaux peuvent décider que un tel ou un tel passera dans les tuyaux ou ne passera pas. Pour nous, radio, par exemple, on s'est battu pour que on puisse avoir accès à la radio numérique terrestre, c'est-à-dire notre propre émetteur qui nous permet de diffuser diffuser en qualité numérique. Et il y en a qui disaient, non, ça sert à rien, c'est passé, la méthode... Maintenant, tout le monde écoute la radio sur son téléphone, il suffit de passer par son opérateur Orange, Free, Bouygues ou autre, et puis, hop, vous avez la radio, c'est facile. Oui, mais il faut passer justement par ces opérateurs. Et il est particulièrement imprudent, dans une société que l'on veut diversifier et où la liberté d'expression existe, il est particulièrement imprudent de laisser le contrôle au tuyau, alors que le contrôle doit être dans la main de ceux qui fabriquent l'information, qui diffusent l'information, et de ceux qui la reçoivent. Parce que je rappelle encore une chose, c'est quand même ceux qui reçoivent l'information qui sont quand même les prioritaires. Et si quelqu'un dit, eh ben non, là, tac, on coupe le tuyau, eh ben l'auditeur, le lecteur, ne reçoit plus. Donc attention, Internet, formidable, mais que les jeunes, comme les moins jeunes, tout le monde se dise, attention, il y a quelqu'un derrière qui fait de l'argent avec et qui contrôle absolument tout ce que je dois entendre ou ce que je ne dois pas entendre.
On va terminer avec la dernière question. Carly, on t'écoute.
Alors, quel conseil pouvez-vous donner pour un meilleur usage ?
Je crois que, voilà, les conseils viennent d'être donnés. Vérification. Avoir conscience qu'effectivement, derrière, il y a un émetteur. Enfin, un émetteur au sens pas technique, mais un émetteur, voilà. Et puis, toujours, avoir cette capacité que nous avons tous, mais que vous avez particulièrement, de discernement entre ce qui est dit, ne pas prendre tout ce qui est dit, tout ce que vous voyez comme argent comptant. La vraie vie, pour reprendre l'expression, elle n'est pas dans les tuyaux, ou dans les câbles, ou dans la fibre. La vraie vie, elle est dans la réalité. Donc, bien discerner ce que vous cherchez d'abord, ce que vous entendez ensuite, pour être à peu près certain. Alors, et attention, danger aussi à l'aspect de facilité. De facilité, c'est facile, je claque, je vais sur mon application, j'ai immédiatement. Gaffe à l'effet d'immédiateté qui peut s'avérer néfaste, on le voit tous les jours, tous les jours.
Oui, moi je dirais que pour répondre à votre question, il faut que l'auditeur, le lecteur, les spectateurs ne se considère pas comme un simple consommateur passif et qu'il doit se considérer d'abord comme un citoyen et que tout ce qu'il reçoit comme information, il le prend avec un regard critique, avec un petit peu de distance dans tous les cas, que ça va lui servir finalement à se faire sa propre opinion et c'est que ce sont ces éléments qu'il va acquérir qui vont lui permettre aussi d'être citoyen actif dans la société, ce qui est finalement quelque chose de fondamental. Et on en revient cette fois à l'essentiel. Encore une fois, on remet au centre l'auditeur, le citoyen. On est là tous pour faire que le citoyen soit le mieux armé pour être le plus actif, le plus heureux, le plus épanoui dans la société et qu'il puisse faire partager cette volonté avec l'ensemble des gens avec lesquels il vit.
C'était l'émission dans le cadre de la Semaine de la Presse sur l'histoire de la radio et l'électronisme sur Andy FM. Merci Océane, Marine et Carly pour vos questions. Et nous remercions vos invités, Monsieur Lucas, représentant du SNRL, Syndicat National des Radios Libres, et Monsieur Shed, journaliste de la revue Vie Nouvelle, pour vos interventions et le temps que vous nous avez accordé.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci beaucoup du temps que vous avez bien voulu consacrer à cet aspect fondamental de l'information.